Je reprends à la page 10 où vous avez le texte de ce que j'ai dit la fois passée. J'ai commencé en préliminaire par faire valoir le fait que lorsque nous travaillons un évangile, eh bien, Dieu qui a inspiré les Écritures, le Verbe de Dieu lui-même, Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a été à l'œuvre dans toute l'histoire de l'Église, en quelque sorte, soutiennent notre travail. C'était l'objet de la première page. Notre labeur personnel s'adosse à la multitude des acteurs qui nous livrent et nous interprètent déjà la parole de Dieu. Puis à la page 11, après avoir rappelé que Matthieu a des quatre évangélistes et que sa figure emblématique, c'est celle d'un homme, d'un ange, hein, j'ai réfléchi un peu sur le mot évangile lui-même, d'un usage d'abord profane, et puis dans l'Ancien Testament, déjà avec Isaïe recevant la notion d'une bonne nouvelle à caractère religieux, qui intéresse les relations de l'homme avec Dieu. Donc une bonne nouvelle, pas simplement au sens général, profane, mais une bonne nouvelle proprement religieuse. Et qui est passée alors dans le Nouveau Testament à la faveur de cette citation fameuse d'Isaïe que Jésus fait, qu'on rencontre en Matthieu, mais qu'on rencontre aussi chez Luc, dans l'épisode inaugural à Nazareth. Il tombe sur le passage où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, évangéliser littéralement. » Et à la faveur de cette reprise par Jésus, ben, le mot passe dans le Nouveau Testament. Alors on a vu rapidement déjà quatre occurrences importantes, les quatre occurrences importantes du substantif évangile chez Matthieu. Vous vous souvenez ? L'évangile est d'abord dans deux premières occurrences, la bonne nouvelle, hein, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, repris par le narrateur, et puis ça viendra plus loin dans la bouche de Jésus. On avait vu ça, ces occurrences, sur la page, et j'avais commenté un peu cette page, la page 2. Puis j'avais ébauché la question de la question synoptique, c'est-à-dire les rapports qu'on peut entretenir entre eux, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et j'avais retenu, c'est à la page 14, donc je ne relis pas toutes les feuilles, hein, mais je les parcours, à la page 14, on avait retenu qu'il faut en tout cas avoir entendu parler de la théorie des deux sources, selon laquelle Matthieu et Luc auraient hérité de Marc davantage des éléments narratifs et auraient hérité d'une deuxième source qu'on n'a plus, mais désignée par la lettre Q, une série de paroles de Jésus, et qui expliquerait ce qu'on appelle la double tradition, c'est-à-dire des passages, surtout de paroles, que l'on trouve et chez Matthieu et chez Luc. Alors, lié à cette proposition de théorie des deux sources, il y avait évidemment une hypothèse de datation comme quoi Marc aurait été rédigé le premier et puis Matthieu et Luc forcément un peu plus tard, 6 ans 18. Mais j'avais souligné que de bonnes recherches contemporaines manifestent que c'est peut-être pas une théorie absolue, définitive, c'est jamais prouvé 100% dans ce domaine de la recherche, et que certains avec de bons arguments font valoir que peut-être avant le Marc dans sa mouture définitive déjà qu'il y avait une mouture de Matthieu s'appuyant sur une parole des pères de l'Église qui disent les évangiles contenant des généalogies ont été écrits en premier lieu, et ces deux là c'est Matthieu et Luc. Donc ça c'est une autre opinion, hein, pour que vous sachiez que c'est un domaine de la recherche où on peut encore discuter. J'avais réfléchi un peu sur la réalité de la vérité historique des évangiles qui font écho à des événements advenus et des paroles prononcées par Jésus, mais les ressaisissent évidemment dans une certaine perspective avec des accents spécifiques à chacun des évangélistes. Donc ils rapportent les choses, mais déjà en les interprétant à la lumière de ce que l'Esprit-Saint leur donne de comprendre. Page 17, j'avais justement souligné ce caractère inspiré, c'est-à-dire soutenu par l'action de l'Esprit-Saint des évangiles, qui a donné aux évangélistes de se souvenir, de choisir dans leur souvenir et de trouver une manière adéquate dans ce matériau, et bien de le mettre en œuvre pour bien se faire comprendre de leur lecteur. Un dernier point, à la page 17, c'est notre accès au texte original et les traductions. Je me contente, pour ne pas être trop technique, de dire que nous avons quand même un accès au texte original de l'Évangile, au texte grec, dans le cas de l'écriture, hautement fiable. Il y a quelques variantes qu'on peut discuter, mais c'est rarement, entre les manuscrits, c'est rarement déterminant, mais plus que pour n'importe quel autre manuscrit de philosophes antiques, etc., les manuscrits dont on dispose et à partir desquels sont faites les traductions, eh bien, sont généralement très, non seulement très abondantes, mais très fiables. Je n'en parle pas plus dans les détails. Alors, pour nous introduire, ça c'était une réflexion générale sur le genre évangile, tout en notant déjà quelques points propres à Matthieu. Pour nous introduire à l'évangile de Matthieu lui-même, je vous invite à reprendre un instant la page 6 dans les feuilles en question. Souraki est une traduction suggestive, mais à utiliser avec discernement. Parce que Souraki connaît très bien l'hébreu, connaît très bien le grec, connaît très bien le français, et il a des tournures si on n'a pas un peu ces arrière-fonds sur lesquels on risque de se tromper, de traduire en erreur. Donc c'est certainement pas à utiliser pour de la catéchèse à des enfants. Mais jeter un coup d'œil sur Souraki. Mais pour bien le comprendre, ça présuppose qu'on ait quand même des éléments de connaissance du grec et de l'hébreu. C'est une parenthèse. Donc moi-même, je vais parfois voir comment ils traduisent, ça m'intéresse, mais ce n'est pas, je dirais, des traductions plutôt pour grand public. Même s'il y a des formules qui séduisent les gens, mais ils n'en mesurent pas toujours la portée. Voilà. Alors, pour l'évangile de Matthieu, donc à la page 6, l'auteur et la datation. Selon la tradition, ce serait un apôtre, Matthieu Lévi, qui apparaît parmi les douze. Son évangile précise Matthieu le publicain, donc auquel cas il serait en train de parler, l'évangéliste qui tient la plume est en train de parler de lui-même. Il est sans doute d'origine et de bonne culture juive, semble-t-il. Peut-être fait-il allusion à lui-même lorsqu'il parle de ce scribe fait disciple du royaume de Dieu. C'est Jésus qui utilise cette formule à la fin du discours en parabole. Voilà l'opinion tenue par la tradition. Alors des exégètes modernes parfois discutent, est-ce que Matthieu était lui-même vraiment juif, est-ce qu'il était vraiment l'un des douze. Pour ma part, je tiens quand même plutôt favorablement à l'opinion de la tradition. Avec de bons arguments techniques aussi pour cela. La rédaction finale, on dit souvent après l'an 70, j'ai ajouté, ou avant, on peut discuter. On prend la date de l'an 70, vous savez que c'est une date charnière importante puisque le temple de Jérusalem a été détruit à ce moment-là par les armées romaines. Alors, Jésus, dans l'Évangile, annonce la destruction du temple et de Jérusalem, et parfois de manière assez précise. Alors certains disent, mais c'est écrit après. Or, on voit dans l'Ancien Testament déjà des annonces de la destruction de Jérusalem, assez précises, dans le langage prophétique, et on ne peut pas nécessairement interdire à Jésus, dès avant l'événement, d'avoir prophétisé la chute de Jérusalem dans la ligne prophétique. Donc vous voyez, à tout argument, on peut trouver des nuances. Ou bien on dit, c'est forcément écrit vers les années 80, parce que Matthieu a des passages qui sont souvent sévères pour les scribes et pharisiens. Hélas pour vous, scribes et pharisiens hypocrites, hein, ça va venir. Bon. Or, la tension avec le pharisaïsme s'est développée surtout vers l'an 80, vers la fin du siècle même. Et donc, c'est sans doute à cette époque-là, à quoi on peut répondre? Il n'a pas fallu attendre l'année 80 pour avoir des tensions avec le judaïsme. Il suffit de lire saint Paul qui écrit dans les années 50 et 60 pour se rendre compte que voilà, la discussion avec les pharisiens, non pas à noircir indûment, mais on voit bien que entre Jésus et les pharisiens, déjà de son vivant, il y avait des points de fond et des discussions profondes. Ceci pour dire, c'est pas nécessairement après l'an 70. Moi, je n'exclus pas que ça soit écrit peut-être un petit peu avant. Les destinataires et milieux de rédaction, on voit qu'ils s'adressent à des églises judéo-chrétiennes, c'est-à-dire des gens venus du judaïsme. On va voir qu'ils convoquent l'écriture en ayant l'air de présupposer que ses lecteurs, ses interlocuteurs connaissent les écritures. Et il y a d'autres traits que je rassemble ici. Donc, des églises judéo-chrétiennes d'origine soit galiléenne, soit émigrées de Jérusalem vers le nord de la Galilée ou la Syrie. Des indices du caractère palestinien de son évangile, si vous voulez, du fait que Matthieu est un juif et qui s'adresse à des chrétiens sans doute majoritairement venus du judaïsme, il y a le vocabulaire, Ville Sainte, la loi des prophètes, Emmanuel, Raka, qui présuppose que le lecteur ou l'auditeur soit un peu au fait de cela. Saint Luc, qui s'adresse à des non-juifs, même, lui, prioritairement, explique les choses, parce qu'il se rend compte qu'ils ne sont pas capables de comprendre par eux-mêmes. Tandis que Matthieu utilise les termes sans les expliquer, en ayant l'air de présupposer que ceux auxquels il s'adresse, voilà, comprennent. Des procédés de composition littéraire qui sont davantage sémitiques. Sémitique, ça veut dire dans l'horizon de la langue hébraïque ou arabe. Des allusions à des usages palestiniens, par des ablutions, des phylactères. Hein, là où Luc doit expliquer, les Juifs en effet ne prennent pas leur repas sans avoir fait ceci, cela. On voit qu'il s'adresse à un autre public que les chrétiens venus du judaïsme. Il manifeste une grande préoccupation pour le destin d'Israël. On va voir ça souvent, hein, selon l'intitulé, le sous-titre que j'ai donné au cours, hein, le plus juif des évangélistes. On va voir que ces réalités et cet intérêt sont marqués chez lui. En même temps, il a de rudes interpellations vis-à-vis d'un certain judaïsme. J'ai rappelé, si c'est un juif qui s'adresse à des juifs, eh bien, le débat un peu interne au judaïsme, il n'a pas peur de se faire valoir. Donc ceci pour dire que les destinataires sont quand même de l'avis le plus communément partagé des chrétiens venus du judaïsme, des judéo-chrétiens, à la différence de l'évangile de Luc. Quelques caractéristiques de fond, je ne vais pas m'y attarder ici, une fois que nous serons entrés dans le texte, vous pourrez goûter ce qui est dit ici un peu en résumé, mais il vaudra mieux l'expérimenter un peu au fil du texte. Par exemple, je prends un point, la formation des disciples, eh bien on va voir que dans tous les discours qui structurent en partie l'évangile, on n'en parle pas, eh bien les disciples ont une place de choix comme auditeurs. Ils ne sont pas nécessairement les seuls auditeurs, mais en tout cas ils sont des auditeurs d'avant-plan, et dont Jésus a le souci. L'évangile ecclésial, j'en ai dit un petit mot par l'usage du mot église, mais aussi d'autres traits. Hein, un peu plus haut, dans l'évangile par excellence du royaume des cieux et de sa justice nouvelle. Souvenez-vous qu'en parcourant les quatre occurrences du terme évangile, on l'a vu associé à évangile de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et que la justice aussi était un thème. Alors venons-en à une proposition, c'est le quatrième point de la page, une proposition de plan d'ensemble. On identifie dans l'évangile de Matthieu, je vous l'ai dit, un certain nombre de discours. Matthieu a un souci de regrouper, manifestement, à un certain moment, des paroles de Jésus. Et comment peut-on identifier ces discours ? Notamment par la manière dont il débute, en ce temps-là, Jésus, on précise les lieux, l'auditoire, la parole, et puis la manière dont il se termine. Il y a chaque fois une formule assez typique qui nous font comprendre qu'on termine un ensemble discursif de paroles de Jésus et qu'on va passer à une section de récit. Je vous donne ces exemples. Le discours sur la montagne, qu'on connaît bien. Il va du chapitre 5 à 7. Si je prends la fin, il arriva, quand Jésus eut fini ces paroles-ci, je suis à 7, 28, il arriva quand Jésus eut fini ces paroles-ci, que les foules étaient stupéfaites de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Donc il arriva quand Jésus eut fini ces paroles-ci, c'est une formule qui dit, voilà, on est au bout d'un discours. Je prends le discours d'envoi en mission. C'est au chapitre 10. Je vais prendre les 5 discours, hein, et leur finir, chapitre 10. La conclusion apparaît au premier verset du chapitre 11, hein, 11.1. Il arriva, quand Jésus finit de donner ses consignes à ses 12 disciples, c'est une manière de dire, on vient d'avoir un discours de consignes d'envoi en mission, et qui était spécialement adressé aux 12, qu'il se transporta de là pour enseigner, proclamer dans leur vie. Formule de conclusion du deuxième discours. Formule de conclusion du troisième discours, c'est le discours en parabole au chapitre 13. Je le prends. Jésus termine. Avez-vous compris tout ceci? Ils répondent hardiment oui. Hein? Et c'est là qu'intervient la phrase, en raison de ceci, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui jette de son trésor du neuf et du vieux. Et il arriva, quand Jésus eut fini, pas simplement ces paroles, mais ces paraboles-ci. Je suis en 13.53, qu'il émigra au-delà. Donc, on dit chaque fois qu'il termine un discours et qu'il y a un changement de lieu, où on va commencer une section de récit. Donc, 13.53, il arriva quand Jésus eut fini ces paraboles-ci. Et de fait, dans le chapitre 13, c'est un discours en parabole. Massif. Quatrième discours, c'est le discours à la communauté au chapitre, qui se déploie au chapitre 18, qui met au centre l'aptitude à pardonner aux frères et l'attention apportée aux petits. Comment cela se termine-t-il? Il arriva, quand Jésus eut fini ces paroles-ci, qu'il émigra de la Galilée dans le territoire de la Judée. Ça, c'est donné au chapitre 19, verset 1. En conclut, formule conclusive du quatrième discours. Et enfin, le cinquième discours, qui nous est bien connu, sur la venue du Fils de l'homme et le jugement dernier, dans le scène de Saint Matthieu. Comment se termine-t-il à la fin du chapitre 25, pardon. C'est le premier verset du chapitre 26. Ceux qui ont découpé le texte en chapitres, hein, c'est pas original, c'est pas du début originel, le découpage en chapitres. Hein, c'est venu au XIIIe siècle, et puis en verset au XVIe siècle. Mais ceux qui ont découpé l'ont fait intelligemment. Et c'est pour ça que c'est souvent au premier verset du chapitre suivant que vous avez cette formule de conclusion. Donc en 26.1, je lis, « Et il arriva quand Jésus eut fini toutes ces paroles-ci. » Je vous signale qu'on a fini le dernier des 5 discours. Donc voilà une formule, il arriva quand Jésus finit ses paroles-ci à ses disciples, ses paraboles-ci, ou bien à la fin toutes ses paroles-ci, c'est un signal littéraire pour dire, voilà, on termine un discours. Alors, entre les discours, il y a des récits. Alors, dans les récits aussi, on a des échanges de paroles, bien sûr. Mais le propre d'un discours de Jésus, c'est que c'est lui qui, sans être interrompu, sauf par une question d'un disciple qui relance le propos, mais qui parle de manière continue dans un discours. Tandis que dans les portions de récit, si les paroles interviennent, c'est davantage dans le cadre d'un dialogue avec les disciples. Il y a question-réponse. Donc, entre les discours, on va avoir des portions de récit. C'est ce que j'ai mis au bas de la page 6. Vous voyez, je viens de reparcourir. On discerne, regroupant de manière organique des propos de Jésus, donc je suis dans les dernières lignes de ma page 6, hein, 5 grands discours. Sermon sur la montagne, 5-7. Discours d'envoi en mission, 10. Discours en parabole, 13. Discours à la communauté, 18. Et discours eschatologique, sur la venue du Fils de l'homme, 24-25. Le père Habermas voit dans les premiers chapitres de l'Évangile comme un premier discours, entre guillemets, au sens où l'enfant ne sait pas parler, mais les Écritures parlent pour lui. On va voir qu'il y a beaucoup de citations des Écritures. C'est l'ange du Seigneur qui fait entendre sa voix en interpellant Joseph, etc. Et donc, il considère les deux premiers chapitres comme déjà un premier ensemble de discours. Et ce qui suit, au chapitre 3-4, c'est les épisodes préliminaires de la vie publique de Jésus, à savoir le baptême, l'exaltation des airs, hein, et le choix des premiers disciples, au chapitre 3-4, c'est une première portion de récit. Donc, dès avant le sermon sur la montagne, qu'on considère généralement comme le premier discours, Jean Habermas nous dit il y a quand même déjà comme une forme de discours suivi d'une portion de récit. Et de même, à la fin de l'évangile, ce qu'on considère simplement comme la conclusion de l'évangile, eh bien, à travers les événements de la passion, résurrection, puis ce que Jésus ressuscité dit à ses disciples, on a de nouveau quelque chose de l'ordre du discours récit. Ce qui veut dire que Jean Habermas identifie six fois la séquence, en prenant ce que j'ai dit du début surtout, six fois la séquence discours suivi de récit. Discours suivi de récit. Six doubles sections. Ce qui veut dire qu'il divise son évangile en 12 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque fois, discours, récit. Discours, récit. D'autres voient bien qu'il y a des discours, mais croient que c'est pas l'ordre discours, récit, mais que c'est l'ordre récit, discours. Mais me semble-t-il, on le vérifiera sur le texte, l'option de Jean Habermas me semble assez soutenable et plus probante. Par exemple, le sermon sur la montagne, on est frappé par l'autorité de Jésus en parole. Dans la section de récit qui suit, où sont regroupés là toute une série de miracles de Jésus, on est frappé par l'autorité de Jésus dans son agir. Donc on voit bien que toute cette section, les chapitres 5, 6, 7 et puis 8, 9, articule l'autorité de Jésus d'abord dans un discours qu'on appelle le sermon sur la montagne et puis dans son agir guérissant, bienfaisant. C'est le chapitre 8-9. Voilà, c'est un exemple qui manifeste, on pourrait le montrer pour les autres sections aussi, mais comment tenir l'ordre d'un discours et puis d'un récit qui lui fait écho est probant. Ce qui vous donne alors à la page 7 le plan proposé par Jean Habermas, comme je l'ai dit, en 12 états, 6 fois 2, c'est la colonne de gauche. Je vous ai montré les correspondances dans les grandes lignes, avec une autre présentation qu'on trouve dans le cahier évangile, mais pour que vous voyez qu'au moins l'identification des grands blocs, on est assez d'accord. De telle section va de tel verset à tel autre. Et alors, ce que ici je veux souligner, c'est le plan de Jean Habermas tel qu'il est proposé dans la colonne de gauche. Et c'est ce que nous suivrons. Je ne le lis pas pour le moment, mais une fois que nous aurons vu une portion, allez relire le petit résumé qu'il donne. Par exemple, pour les chapitres que nous allons aborder, chapitre 1, 2, 3, 4. Quel est son résumé? La démarche de Jésus se présentant au baptême de Jean réalise de façon inattendue l'espérance messianique du peuple, c'est le chapitre 3-4, en conformité, alors du récit, il remonte au discours, en conformité avec les oracles des prophètes évoqués autour de sa naissance, chapitre 1-2. C'est le discours de l'écriture parlant. Le lien entre les deux étapes est exprimé par la présence agissante de l'Esprit. Il donne chaque fois dans ce petit résumé un thème qui unifie ce qu'il identifie comme portion de discours et le récit qui s'ensuit. Voilà, pour donner le principe de lecture de cette page simple. Alors, sur les pages 8 et 9, que je ne commente pas maintenant, je vous ai donné d'autres manières de présenter le plan de l'Évangile, pour que vous voyez qu'une proposition de structure, de plan, n'est jamais quelque chose d'absolu. Personnellement, je m'inspire de celle de Rademakers parce que je trouve qu'il a beaucoup quand même d'éléments en sa faveur et je crois que ça reste suggestif et éclairant. Mais sur la page 9, par exemple, je vous ai mis la proposition de plan du père Yves Simons, qui enseignait ici aussi, et qui souvent, dans un passage, avait l'habitude de repérer des constructions, comme on dit, concentriques ou un peu en chandelier. Vous connaissez le chandelier juif, la menorah, hein, un chandelier qui se présente comme ça. Et alors, si on la met dans le sens, on peut avoir dans un texte qui est élaboré en faisant valoir une construction un peu, où des éléments se correspondent. Et c'est le cas du schéma proposé par le père Yves Simons qui dit mais le discours, parmi les cinq discours classiques, hein, sermon sur la montagne, envoi en mission, parabole, discours ecclésial, celui que j'ai parcouru, les discours 1 et 5 ont des éléments par lesquels ils se correspondent, les discours 2 et 4 ont des éléments par lesquels ils se correspondent, et au centre, il voit le discours 3 qui est le discours en parabole. Ce plan met en évidence le fait que, de fait, le discours en parabole a quand même un rôle assez spécifique. On verra en quoi au moment où on le parcourra. Mais c'est pour que vous ayez une idée d'un autre type de présentation que le plan du père Rademakers et qui fait voir, quand je dirais ces propositions sont argumentées, intelligentes, chacune a un peu ses valeurs et fait voir certains éléments du texte. Voilà pour ce qui est de cette première présentation de l'Évangile de Matthieu. Alors, il est temps de commencer à entrer dans le texte lui-même. Je vous invite à avoir la page 18 sous les yeux. Celle que je vous ai donnée. Aperçu synoptique, j'ai oublié le N, là. J'ai écrit synoptique. Rester dans la machine, perçu synoptique pour Matthieu 1 à 4. Donc c'est un tableau tiré du début de la synopse. C'est un de ces tableaux un peu agrandi. Donc la page 18 que je vous ai donnée aujourd'hui. Voyez au début du tableau, prologue de Luc, qu'on ne trouve que chez Luc. De fait, Luc introduit son évangile par quatre versets qui lui sont assez typiques. Comme beaucoup ont entrepris, eh bien, cher Théophile, bon, c'est le prologue de Luc. Mais ça se trouve que chez Luc. Alors, récit de l'enfance du Christ, mais on doit bien distinguer les récits de Matthieu et les récits de Luc. Voilà. Puisque, je vous disais, Hérode, les mages, les apparitions à Joseph, c'est chez Matthieu, tandis que les bergers, c'est chez Luc, bien sûr. Et les anges qui chantent, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Donc, il y a lieu de remarquer que chacun de ces deux évangiles a une présentation de l'enfance de Jésus qui lui est propre. On va réfléchir un peu sur le genre littéraire, qui a des points d'enracinement dans l'histoire, mais qui ressaisit, on va le voir, quand même dans une certaine perspective, et qui, chez Matthieu, va contenir une insistance sur la manière dont les Écritures de l'Ancien Testament commencent à s'accomplir en Jésus. Et puis, vous voyez que le ministère galiléen, donc les séquences, Jean-Baptiste, prédication de Jean-Baptiste, annonce du Messie, on voit que les choses se suivent. Bon. Si ce n'est que l'emprisonnement de Jean-Baptiste, raconté chez Luc dans cette séquence-là, viendra plus loin dans l'évangile de Matthieu et de Marc. Voilà. Baptême de Jésus. Alors, vous voyez aussi, le tableau synoptique permet de comprendre que généalogie de Jésus selon Luc. Mais Luc donne sa généalogie de Jésus entre le baptême et les tentations. Tandis que pour Matthieu, c'est intervenu où ? c'était la toute première séquence à Matthieu, généalogie de Jésus selon Matthieu. Chez Matthieu, c'est la généalogie qui ouvre l'évangile. On réfléchira pourquoi cette place différente donnée à la généalogie de Jésus, chez Matthieu d'une part, tout au début, chez Luc d'autre part, intercalée là entre le baptême et les tentations. Voilà, une vaste parenthèse qui lui prouve le besoin de faire à ce moment-là. Et puis la tentation de Jésus, etc. Vous voyez que ce tableau permet de voir rapidement de voir dans quel ordre les choses se suivent. Et vous voyez que, à un moment donné, Marc et Luc sont relativement plus proches l'un de l'autre dans l'ordre des séquences. Les séquences là, 23, 24, 25, etc. Vous voyez qu'à ce moment-là, l'ordre qu'on trouve chez Luc et chez Marc est c'est spécifique, tandis qu'on ne trouve pas chez Matthieu. Ça, c'est une première remarque. Alors, entrons dans le texte lui-même. Je vous invite à avoir le texte sous les yeux. Livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, or Isaac engendra, etc. Je ne vais pas tout relire. Mais je donne quelques éléments pour rapprocher le texte. Livre, c'est le tout premier mot qui ouvre le Nouveau Testament, c'est le mot livre. Livre de la Genèse. Bien sûr, livre de la Genèse va nous faire penser à cette expression telle qu'elle apparaît au livre de la Genèse même, au tout début de la Bible. Mais ici, il s'agit de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On va avoir au chapitre 1 et 2 les débuts de la vie de Jésus. La généalogie des ancêtres qui s'acheminent vers lui, puis sa naissance au chapitre 1, et puis au chapitre 2, tout l'épisode avec le roi Hérode, les mages, la fuite en Égypte, le retour. Chapitre 1 et 2, les débuts de la vie de Jésus. Chapitre 3 et 4, ça va être là le début de la vie publique de Jésus, avec la proclamation de Jean-Baptiste, et puis qui va être relayée par Jésus et le choix des premiers disciples. Donc on a un ensemble, là, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, Jean-Rater Marquez, vous le disiez, le considère un peu comme un discours, au sens où on va voir qu'il y a pas mal de citations de l'Écriture qui parlent pour l'enfant, qui nous font comprendre. Ça, c'est pour le mouvement d'ensemble. Donc, le chapitre 1, jusqu'à la naissance de Jésus, et puis le chapitre 2, juste après sa naissance, pour cet ensemble. Livre de la Genèse de Jésus. Le mot Genèse va revenir au verset 18. Or de Jésus, Christ, c'est la même expression, ainsi fut la Genèse. Donc, on comprend qu'au verset 1, il s'agit du livre de la Genèse lointaine. Toute la tradition, les généalogies d'Israël. Au verset 18, on comprend qu'on va vous raconter la Genèse au sens de sa naissance, au moment de l'incarnation de Jésus-Christ. Ainsi fut la Genèse, comme sa mère Marie était fiancée à Joseph. Donc ça, il s'agit de la Genèse immédiate. Genèse lointaine, Genèse immédiate. Donc on voit que le chapitre 1 se divise en la généalogie jusqu'au verset 17, et puis, à partir de cette expression du verset 18, comment Jésus va venir au monde. Pour ce qui est de la généalogie, livre de la Genèse de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. On remonte dans le temps. La formule initiale nous fait remonter. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on remonte jusqu'à Abraham. Or, il y a eu des choses avant Abraham. La généalogie de Luc, qui s'adresse à des non-juifs, fils d'Adam, va procéder à l'autre sens et dire qu'il était fils d'Adam, fils de Dieu. Il va remonter jusqu'à Adam pour faire comprendre que c'est tout homme. Tandis que Matthieu, qui s'adresse davantage à des judéo-chrétiens, ainsi sur le point d'enracinement que constitue Abraham, avec lequel il y a le début de l'élection du peuple juif lui-même. Donc, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et puis on reprend le mouvement, mais en descendant et en détail. Abraham engendra Isaac, Isaac en engendra encore, etc. Nous connaissons. Jusqu'à quoi ? Verset 16. Or Jacob, non pas le Jacob fils d'Isaac, hein, mais un autre Jacob, le fils de Matan, Jacob, engendra Joseph, l'époux de Marie, de qui fut engendré Jésus qui est dit Christ. Il n'est pas dit, or Joseph engendra Jésus. La formule change. Joseph, l'époux de Marie, de qui fut engendré, de qui, de laquelle, dans le texte grec c'est un féminin, hein, de Marie, de qui, de laquelle Marie, fut engendré Jésus qui est dit. Et là on a une forme passive. Il fut engendré. Or souvent dans la Bible, on parle d'un passif divin. Fut engendré par qui, sous-entendu, comprenez, par Dieu. En Marie, Jésus est engendré par Dieu, et enfin vous expliquer, c'est l'Esprit de Dieu. Donc on voit comment à la fin, il y a un petit décalage subtil mais important. Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré, on va comprendre que c'est par la puissance de l'Esprit, Jésus qui est dit Christ. Et puis un petit résumé, donc toutes les générations, d'Abraham jusqu'à David, 14 générations, de David jusqu'à la déportation, 14, de la déportation d'un pavillon jusqu'au Christ, 14 générations. Voici de quoi. 14, par parenthèse, c'est le chiffre aussi de David. Vous savez que les Juifs bien donné aux lettres de l'alphabet. O, D, c'est la quatrième lettre de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est la quatrième lettre de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et Vav, Vav, c'est V, David. David. C'est la sixième lettre de l'alphabet. Et puis David, c'est de nouveau 4. 4 plus 6 plus 4 égale 14. Ça, c'est le genre de considération qui nous paraît un petit peu miscornue, etc. Mais dont, parmi les auteurs juifs, parfois, ils ne sont pas abusés, mais ils en sont familiers. Et de fait, il y a quand même une insistance sur David. Vous voyez, ne fût-ce que Genèse de Jésus-Christ, fils de David, ça commence par là. Fils d'Abraham, bon. Et puis au verset 6, David est le seul à recevoir une qualification. Il dit, d'habitude on se contente de donner le prénom. Jessé engendra David le roi. Là on précise, David le roi. Et ça va jouer en contraste avec un autre roi qui vient juste après, qui est Hérode. Et puis le roi des Juifs, ou le roi des Juifs qui vient donner. Donc l'insistance de la qualification de David le roi est importante. Et puis au terme du résumé, d'Abraham jusqu'à David, 14, de David jusqu'à la déportation, 14, la déportation sur Christ, 14 générations. Donc une insistance quand même sur la figure de David. Alors, vous avez dans cette généalogie un certain nombre de femmes importantes qui sont nommées. Et ça se termine bien sûr par Marie elle-même. Ces cinq femmes, c'est les questions de Rahab, d'abord de Tamar, au verset 3, de Rahab, au verset 5, de Ruth, au même verset 5, puis au verset 7, de la femme du riz, ça fait la quatrième, Tamar, Rahab, Ruth, la femme du riz. Et enfin, Notre-Dame, Marie à la fin. Donc il y a cinq femmes qui interviennent dans la généalogie, qui sont mentionnées. Et c'est une précision. D'habitude, on se contente de dire Aram engendra, on dit pas de qui. Mais là on en repère quatre plus une par lesquelles passe la promesse. Alors, ces femmes sont retenues pourquoi ? Saint Jérôme, qu'on a fêté il y a quelques jours, paix à son âme, dit un peu abruptement parce que ce sont des pécheresses. En effet, ben, on ne peut pas dire ça de Marie, évidemment. Mais les quatre premières, Rahab, qui est-ce ? C'est la prostituée qui accueille les espions à Jéricho et leur permet d'entrer en terre promise. Tamar, c'est celle qui, en rusant avec Jacob, obtient de lui une descendance. Ruth, ça c'est une femme tout à fait louable, ça va être l'arrière-grand-mère de David. Vous voyez, Ruth, de Ruth, or Jobet engendra Jessé, or Jessé engendra David le roi. C'était aussi une figure étrangère, venue d'un dehors d'Israël. Bethsabée, c'est la femme du riz levitite que David a convoité dans sa faute. Mais en attendant, c'est quand même elle qui va être la mère de Salomon. Et qui va favoriser Salomon. Et Salomon, le roi, plein de sagesse. Donc pour les Juifs, ce ne sont pas tant des femmes pécheresses, pour eux, au contraire, c'est des femmes qui rentrent dans le plan de Dieu. Elles sont certes dans des situations où il y a une étrangère, il y a une prostituée, il y a une espionne, mais en attendant, Dieu se sert de ces aléas de l'histoire pour faire aboutir, dans le fil des générations, son projet de susciter d'Abraham, en passant par David, un Messie. Leur point commun, est celle qui est la plus singulière, c'est Notre-Dame. Elle n'est certes absolument pas pécheresse, mais on voit bien que la manière dont elle conçoit l'enfant, comme c'est raconté, est tout à fait particulière. Donc il y a des figures féminines, et bien comprendre leur portée, au passage. Et puis, il y a, en fait, quand on a un peu l'histoire, quand on regarde, il y a trois rois qui sont omis après Joram. Pourquoi ? Ils sont frappés par Dieu parce qu'ils se sont ligués à Athalie, qui était l'ennemi juré de la descendance royale de Juda. Donc il y a trois rois qui ont essayé, sous l'influence d'Athalie, de couper le cours de cette généalogie qui descend de David, et c'est pourquoi ils ne sont pas retenus à cet endroit-là dans la généalogie. Voilà pour la généalogie. Alors pour la suite, je crois que le temps s'écoule rapidement. J'annonce simplement ce que nous verrons la fois prochaine. On va voir dans ce récit la naissance avec Joseph, l'époux de Marie, mais qui va nous faire penser à un autre Joseph, le patriarche Joseph. Fils de Jacob, Israël, ceux qui ont suivi le cours sous le livre de la Genèse, et qui était un homme au songe. Il y avait des songes. Il voit que il voit en songe des gerbes et les autres gerbes saluent sa gerbe. Donc il annonce qu'il va avoir la prédominance sur ses frères, Joseph le son, ou bien qu'il explique les songes à Pharaon. Il y a eu des songes de vaches grasses et de vaches maigres qu'il ne comprend pas. Donc un autre Joseph, un patriarche, qui est l'homme au songe. Et qui, dans son parcours aussi, a eu le secours divin à travers présences de Dieu et des figures d'anges. Et on va voir que la formule « l'ange du Seigneur apparu en songe à Joseph » est importante. On voit que c'est raconté avec un certain arrière-fond. Et on va retrouver un arrière-fond, la sortie d'Égypte, après avoir été en exil en Égypte, ils reviennent. Avec la citation d'Égypte, j'ai appelé mon fils, ça fait jouer un arrière-fond d'Ancien Testament, qui commence à s'accomplir en Jésus. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, ça sera plus simplement son fils, le patriarche Jacob, ou Joseph, après le séjour égyptien, qui va voir sa dépouille enterrée en Terre Sainte, mais ça va être son fils, son propre fils, Jésus. J'esquisse un peu le mouvement qu'on va observer entre ce qui se passe, la manière dont l'évangéliste nous raconte ce qui se passe, et les arrière-fonds scripturaires qu'il a en tête. On verra que pour les tentations, ça joue aussi de manière assez éclairante. Mais ça, on reprendra la fois prochaine.